RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
Et 19h05, votre rendez-vous cet été, 19h-20h, c'est l'Intégral Tour. On va partir dans quelques instants retrouver Thierry Bourguignon, Cyril Guimard, Luc Leblanc, la Dream Team RMC Sport du côté de Besançon. Ces journées de repos, on aura plein d'invités, Adrien Petit, Frédéric Grappe. Mais d'abord, 19h05, le journal des sports avec Benoît Boutron. 19h14, l'Intégral Tour. On est ensemble jusqu'à 20h pour parler vélo du côté de Besançon. Journée de repos pour les 179 coureurs qui sont encore en course puisque Fabian Cancellara, lui, s'est retiré dans la journée pour privilégier les championnats du monde. La Dream Team est avec nous à Besançon. On a Cyril Guimard. Rebonsoir, Cyril.
Rebonsoir, rebonsoir à tous.
Luc Leblanc qui est juste à côté.
Oui, je suis là.
Bonsoir Luc.
Bonsoir, bonsoir.
Et Thierry Bourguignon, évidemment, comme tous les soirs avec nous. Bonsoir Thierry.
Bonsoir messieurs.
Ah, il est là Thierry?
Oui, il est pas mort.
T'étais pas en vacances aujourd'hui?
Non, j'ai peut-être un peu plus bossé que vous.
Est-ce que encore. Tu vends des vélos un peu, Luke?
Ça va.
De quelle couleur ils sont cette journée?
Quelle couleur?
Ils sont blancs.
Et là, ben oui, je tombais sur la même question avec un client.
Tiens. C'est vrai?
Ouais.
Mais on avait
qui
pas
me
dit...
disait que lui préférait le noir mat.
Et, voilà. Et hier, quand on nous a posé la question au 32-16, on n'avait pas dit que Tony Galopin, il s'était fait faire venir un vélo spécialement en jaune, hein, pour le jour où il a porté le maillot jaune.
Oui, et puis chaque maillot a son vélo et ses affaires, sa tunique.
À une autre époque, non?
Oui, Sagan a le maillot vert avec le cuissard vert, les soquettes vertes. Ah, ils vont jusqu'à. Est-ce que Rodriguez demain aura des petits pois rouges sur son vélo?
Il les a peints au marqueur cette nuit.
Et le caleçon du roi les couleurs aussi du Tour.
Le caleçon, j'espère qu'il l'a enlevé sous le cuissard parce que ça va lui brûler, hein, autrement.
Bon messieurs, journée de repos aujourd'hui sur le Tour de France. On va en parler tout de suite avec un qui a dû bien se reposer parce qu'il en avait peut-être besoin, un coureur qui découvre ce Tour de France. Adrien Petit est avec nous. Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
Alors, Salut Adrien.
Salut.
Adrien, est-ce que ça a fait du bien cette journée sans trop de vélo? Vous avez quand même roulé un petit peu, j'imagine, mais il y en avait besoin pour vous?
Ouais, bah, elle a fait vraiment du bien. C'est sûr que là, les deux dernières étapes, je les ai faites au courage. Ce matin, j'ai fait 20 minutes d'entraîneur et ça m'a suffi largement.
20 minutes seulement, ça veut dire que vous êtes vraiment fatigué quand même là?
Non, c'est juste que je pense que sur une journée de repos, chaque coureur doit faire ce dont il a envie. Donc il y a des coureurs qui vont rouler sur la route, il y en a d'autres qui roulent pas du tout. Ben moi, j'ai plutôt opté pour l'option entraîneur. J'ai transpiré pendant 20 minutes, ça m'a suffi.
Est-ce que les jours qui viennent vous font peur? Les Alpes qui arrivent en fin de semaine, les Pyrénées la semaine prochaine?
Bon, me font peur, c'est un grand mot. Je pense que là, les Vosges, c'était vraiment dur parce que c'était l'étape entière qui était compliquée. L'échappée n'était pas partie, il y avait des cols d'entrée. Donc c'était pour nous, sprinteurs, c'est pas facile. Tandis que là, je pense qu'il y a moyen vraiment de... Je pense que j'ai fait le plus compliqué. Après, les cols, je les connais. Je sais que ça va être une partie de rigolade, mais bon, il faut passer par là. Ça va être un grand moment, ouais.
Cyril, 20 minutes de home trainer, c'est un choix personnel. Bon, tout le monde fait comme il sent, comme nous dit Adrien.
Je pense que le plus important, c'est peut-être de voir avec les physiologistes, les médecins de l'équipe, qu'est-ce que eux préconisaient.
Adrien, ça va être quoi pour vous l'objectif maintenant sur ce tour? Votre leader, il est très loin au classement général, Daniel Navarro, 40e, près de 40 minutes de Nibali. Il n'y a plus trop d'étapes qui vous conviennent. Vous en avez coché une pour vous, personnellement? Est-ce que vous avez envie de vous mettre dans un coup un jour?
L'étape de Nîmes me plaît beaucoup. Donc, on verra comment ça va.
Talar Nîmes. Hein.
Après, c'est le lendemain de Rizoul, donc on verra comment je récupérerai de la veille. Mais sinon, au début, on était arrivé ici avec Cofidis plutôt pour les étapes. Donc, Dani va viser une étape. Il n'était pas là pour jouer le général. Donc là, il commence à être vraiment bien. Et puis, Rein est là aussi. Donc, on va voir pour les épauler sur les étapes compliquées. Et puis, après, moi, j'ai quelques étapes qui peuvent me convenir.
Luc, quand on voit le profil de cette suite de Tour de France, c'est vrai que cette étape de Nîmes, à mon avis, Adrien va pas être le seul à tenter un coup dessus quand même. Hein.
Bah oui, c'est l'une des rares étapes où des coureurs comme Adrien peuvent éventuellement faire quelque chose. Mais ceci dit, Adrien peut très bien se glisser dans une échappée sur toutes les étapes qui restent jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Il y a quand même encore de bons moments à vivre, donc il faut pas qu'il se cible non plus que cette étape, parce que s'il se loupe que sur l'étape qui s'est fixée, c'est l'étape de Nîmes, ça serait dommage. Tu as des échappés qui peuvent partir de bonne heure, même en montagne, même si t'es pas un pur grimpeur.
Il a tenté le coup, hein, voilà, il a, de mais, Gérard Mer, mais c'était pas. Est-ce que c'était pas une erreur de casting?
Il faut continuer.
Je l'ai regretté à un moment donné, cette échappée, ouais, parce que le lendemain j'avais les jambes un peu dures et avec le col d'entrée sur l'étape du lendemain, ça n'a pas été facile. Mais non, c'est sûr que quand je parle de l'étape de Nîmes, c'est plutôt une étape où il y a possibilité de jouer dans un rôle de sprinter et voir après avec les bordures peut-être dans le final. Après, c'est sûr que les autres étapes, il y en a beaucoup qui me plaisent pour me lancer dans des échappées avec quelques bosses dans le final, mais des bosses qui sont pas non plus des chantiers, donc où il y a possibilité d'aller faire quelque chose de bien en bout. Ouais.
Comme celle de Saint-Étienne,
voilà, par j'étais exemple. En train de la regarder, Saint-Étienne, tiens.
Ouais,
il en reste pas beaucoup.
Il
veut
pas
hein.
Dire il
y a Saint-Étienne,
Arnaud,
il y a Bergerac.
Coche-en plusieurs quand même, comme oui. Ça, moi.
Le jour le jour. Il vit le tour le jour et il a bien raison.
Saint-Étienne, c'est jeudi, hein. Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne.
Ce qui est sûr, c'est que je pense pas me lancer dans l'échappée avec l'arrivée à Pladadé en partant oui. Dans le col du Portillon, par exemple.
Non, tu crois ne pas pouvoir lancer le sprint au sommet là-haut.
Arriver au sommet déjà avec les premiers.
Bon, je crois que c'est plus sûr de tenter les arrivées au sprint dans la mesure où déjà il y a Cavendish en moins.
Ouais, non, mais c'est sûr, il y a possibilité de faire des choses sympas encore, donc il faut rester concentré et puis profiter de l'instant présent, quoi.
Ben merci beaucoup Adrien d'avoir été avec nous dans l'intégral tour. On va vous laisser vous reposer tranquillement.
Ouais, hein? Ben merci beaucoup, il y a pas de souci.
Demain
bon
ça
courage.
Repart.
Au revoir,
à bientôt. Au revoir, Adrien, Luc, Cyril, Thierry, on va rester ensemble évidemment dans cet intégral tour jusqu'à 20h. Dans quelques instants, on va parler du cas Romain Bardet. C'est quand même le premier Français du classement général. Et lui, il attend les Alpes avec impatience. Il a coché beaucoup d'étapes. À tout de suite.
RMC, intégral tour, Martial Fernandez.
Intégral Tour, jour de repos ou pas, on est là tous les jours avec Luc Leblanc, Cyril Guimard et Thierry Bourguignon. Et messieurs, maintenant on va parler du premier Français du classement général. En plus, il est plutôt haut dans ce classement général, donc ça nous fait plaisir. À la quatrième place, Romain Bardet, à 3 minutes 01 du maillot jaune, Vincenzo Nibali. Romain Bardet qui a des ambitions, Cyril, sur ce tour, il n'arrête pas de dire que maintenant... Il a envie d'attaquer dans les Alpes, qu'il en a marre de suivre. Est-ce qu'il va en avoir les moyens et la possibilité?
C'est vrai, je crois que la première règle, elle est simple. Avant d'attaquer, il faut suivre. Il faut être capable de suivre. Si...
Il faut être dans le bon groupe.
C'est-à-dire que si vous êtes lâché, ça va être difficile d'attaquer. Mais avant d'attaquer dans les Alpes, il faudra quand même passer les deux grosses étapes alpestres avec deux arrivées au sommet, avec Champs-Rousse et Risoul. S'il a la possibilité d'attaquer et que éventuellement Nibali ou Richie Porte ou Valverde sont en difficulté, il ne fera quand même pas hésiter. Vous savez... il faut attaquer quand les circonstances de course le permettent et quand les adversaires peuvent être mis en difficulté. Donc, quand il dit je vais attaquer dans les Alpes, oui, il a les Alpes en point de mire, mais il y a quand même deux arrivées au sommet sur lesquelles il faudra quand même être présent. Et vous savez, on a l'habitude de faire des bilans après les premières étapes. On a fait des bilans après les pavés, on a fait des bilans après la grande étape de montagne hier. Et c'est arrivé à la planche des Belles-Filles. On refera un point après Risoult, donc après la traversée des Alpes, avant d'aller bien sûr sur les Pyrénées.
Thierry, quand on a comme ça un coureur qui, aujourd'hui, pendant la journée de repos, Romain Bardet, moi j'aime bien ça, qui nous dit « je n'hésiterai pas à jouer le tout pour le tout ». C'est plutôt sympa, un gars qui a envie d'aller de l'avant comme ça, de tout tenter pour voir ce que ça peut donner si tout sourit.
Ah mais bien sûr que ça fait plaisir, mais attention, c'est à son staff à un peu le calmer.
Il faut le tempérer le genou.
Mais bien sûr, parce que attaquer, Cyril l'a bien dit, avant d'attaquer, il faut essayer de suivre les meilleurs. Et s'il est au sommet d'école avec les meilleurs, pourquoi pas?
Ben, s'il a du gaz, à ce moment-là, il peut y aller.
Voilà, exactement.
Il a fait une balie hier. Hein.
Mais malheureusement, j'ai peur que dans sa fougue, il est originaire des Alpes, il aura son public. Vous savez qu'il est dans une équipe à G2R qui est aussi originaire de Chambéry. Donc tout ça, ça va être détonnant. J'espère que on va être là. Du moins son encadrement va être là pour le calmer, le tempérer et lui faire faire les bonnes choses et pas les chevaucher en avant pour n'importe quoi au risque de tout perdre.
Luc, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je serais d'avis de faire une stratégie spéciale Romain Bardet, c'est-à-dire de rester simplement dans la roue des meilleurs. Et puis bon, mais au fur et à mesure des grosses ascensions, c'est vrai que ça va sauter par l'arrière et il faut rester un maximum de temps dans la roue de Nibali. Voilà.
Alors on va écouter.
Rester dans sa roue et puis sait-on jamais. Il ne doit pas s'attaquer. Il doit rester au chaud dans le paquet et le plus longtemps possible et espérer pour lui de pouvoir rester dans la roue de Nibali et pourquoi pas partir avec Nibali. Ça serait vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est arrivé par le passé avec des jeunes coureurs. Ça peut le faire aussi pour Romain aujourd'hui.
Luc, comme tu dis, en restant dans la roue de Nibali, forcément,
oui,
il va se retrouver dans les meilleurs.
Il a tout à gagner, parce que d'attaquer de trop loin, Thierry et tout ça, il risque de griller ses cartouches, et dans la dernière ascension, il va payer la note plein tarif, quoi. Donc
en résumé, si vous restez dans la roue de Nibali et que les autres sont lâchés, vous faites deuxième.
Voilà,
exactement.
Voilà.
Ça se fait tout seul. Voilà, c'est facile, le vélo. Voilà. C'est facile.
Il veut monter sur le podium, c'est comme ça qu'il faut opérer. Enfin, pour moi.
Non. Ben, et pourquoi pas attaquer dans le final s'il sent des ailes.
Mais déjà, rester dans la roue de Nibali, ça serait très
bien. Est-ce qu'il n'a pas réussi à faire hier soir?
On va l'écouter. Romain Bardet. Vous parlez de podium, messieurs. Romain Bardet, ambition, le podium ou pas?
Podium, non. Il faut rester réaliste, mon objectif. Je pense qu'on avait dit au début tour en top 15. On va peut-être revoir un petit peu à la hausse, finalement lundi premier à Paris. Puis voilà, faut que je prenne encore un peu de temps où je peux le maximum parce que le chrono je risque d'en perdre face à des spécialistes. Donc voilà, mais je suis vraiment heureux de mon niveau en montagne et il reste encore des belles étapes où j'espère pouvoir essayer d'y aller pour une victoire d'étape aussi.
Bon alors il est à la fois prudent,
bof. c'est étonnant de la part de Romain parce que c'est un manque d'ambition. De se donner comme objectif en prenant le départ du tour, top 15, ça veut dire quoi? Rien du tout. Qui va se rappeler de Romain Bardet, 11e au classement général ou 15e au classement général?
12e, il est
qui
dans
va
les 15 premiers.
Alors à la limite, il vaut mieux qu'il se cible premiers. Comme objectif de gagner une étape. Après, voilà quoi. Mm. Tu vois?
Bah, je crois surtout qu'il ose pas dire les choses, mais que l'ambition qu'il a ou ce qu'il a envie de faire, il a envie de choquer personne, il a pas envie d'attirer sur lui les regards, de se mettre la pancarte dans le dos. Donc il commence à mettre un objectif qui est quand même très très vague. Et pourquoi il est très vague? C'est parce que quand on est quatrième du classement, on ne peut pas ne pas parler, on ne peut pas ne pas penser et s'imaginer sur le podium à Paris. Et comme on ne peut même pas s'imaginer que si les circonstances le permettaient, peut-être même la première marche. Donc là, il est dans un discours politico-respectueux de l'ensemble du peloton et des médias et du public. En fait, il a peur de dire « oui, j'ai envie ».
On a l'impression que les Français aujourd'hui...
Peur qu'on lui reproche
l'impression que les Français aujourd'hui ont peur de dire les choses clairement, quoi. Ils ont peur de s'engager et dire je pars pour le tour pour faire dans les 5 premiers au moins. Dans les 15 premiers, ça veut rien dire.
Mais je préfère un gamin qui nous dise qui tempère un peu ses ardeurs au niveau discours et qui passe en action au niveau terrain. Voilà, c'est tout.
Oui, mais pas n'importe où, comme le disait Lucho tout à l'heure.
Ben voilà. Mais on est tout à fait d'accord, tous les trois là-dessus.
il faut rentrer quand même, hein. C'est important de le dire. Il faut rentrer dans la liberté que pourra avoir Romain Bardet. Le fait que derrière, il a Jean-Christophe Perrault, qui n'est quand même qu'à 50, même pas, il est à 56 secondes de Romain. Qu'ils sont en tête du classement par équipe, qui est un classement qui est quand même très important. Qu'il ne faut pas non plus négliger. Donc il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer dans la stratégie qui sera mise en place et dans le discours qui sera tenu au briefing. Il faudra donc qu'il y ait une rigueur et un respect des consignes de course. C'est peut-être pour ça que Romain dit bon, bah, peut-être entre 3 et 12 ou entre 2 et 12. Bon, je comprends qu'il soit un petit peu un petit peu langue de bois entre guillemets, c'est pas méchant ce que je dis, mais il n'ose pas dire les choses telles qu'il en a envie, parce qu'il est aussi pris dans une équipe où il a des équipiers, il y a d'autres coureurs dans cette équipe qui ont aussi des ambitions, donc
la stratégie, Cyril, la stratégie, quand on était avec toi, avec Thierry, la stratégie, c'était quoi? C'était de jouer le général. Après, le classement final par équipe, il se fait par rapport au classement général. Et automatiquement, à partir du moment où on est devant, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, on joue le classement général. Automatiquement, on ne peut qu'être bien placé pour le classement général par équipe. Donc ça se fait tout seul. De pouvoir se mettre des objectifs comme ça, plusieurs objectifs sur un grand tour. Soit tu joues le général et puis le classement par équipe il viendra après. Ou alors, après tous les lièvres. Ah bah attends, ouais. Putain, le troisième il est à 30 secondes. Attends, on va le chercher, on va le refaire remonter parce qu'il y a le classement général par équipe.
Il y a le classement, du moins la compétition équipe. Parce que là, Bardet est quatrième, mais il y a son équipier Perrault qui est huitième. Mmh. Et Perrault, on le sait qu'il fait de très bons chronos. Donc par rapport à Bardet, au niveau au classement général, il est quand même peut-être un peu protégé.
Ouais, mais alors ça veut dire, Thierry,
quelle va être la tactique de l'équipe?
Est-ce qu'il faut définir un patron?
Ça veut dire que si Perrault et Bardet
devant ou Bardet côte à côte avec Perrault, avec l'objectif d'emmener Perrault le plus loin possible.
Ça veut dire que si Bardet et Perrault sont devant, Perrault se fait larguer. Bardet, s'il a envie d'attaquer, il peut plus attaquer.
Perrault est plus faible, ça se fera à pédale, ça c'est clair.
S'il est obligé d'attendre Perrault par rapport au classement général par équipe. Ils veulent, hein, c'est leur stratégie.
Oui. Est-ce qu'il faut un leader entre les deux? Est-ce qu'il faut définir un numéro 1, un numéro 2, ou il faut encore attendre?
Je pense qu'il faut définir les tâches à chacun, quand même.
Je pense que Cyril sera pas d'accord.
Thierry, la question était posée à moi. Pourquoi tu réponds à ma place?
J'ai pas entendu Cyril.
J'ai dit Cyril.
Oui, il a dit Cyril.
Pour une fois, j'ai entendu. Je vous en prie, cher élève.
Allez, vas-y, mon Cyril, donne ton avis.
Non, mais il faut. Si on veut que la charrette avance dans le bon sens, il faut qu'il y ait un leader protégé.
Tout à fait.
Et un deuxième qui soit en position de lieutenant. Donc, on peut pas mettre deux numéro un. Ça ne marche nulle part.
Bien déterminer les tâches de chacun.
Voilà.
Donc il faut le faire dès aujourd'hui ou il faut attendre aujourd'hui?
Dès le premier jour. Demain, 15 jours avant déjà. 15 jours avant le tour, déjà, il faut définir les...
Comme chez Sky, la place de repos pour en parler.
Oui.
Donc
non, parce qu'à un moment donné, tu comprends bien que ça va péter. Tu regardes, Contador, il est plus là. Froby, il est plus là. Il y a de la place pour monter au classement général et voir éventuellement faire dans les trois premiers. Et tu parles que Perrault, il va y aller, hein. Bardella aussi. À un moment donné, on peut s'entendre dans une équipe et tout. Oui, t'es gentil, moi aussi, toi aussi. Et puis voilà, mais après, bam, bam.
Oh là. Il y a des directeurs sportifs, il y a un manager qui est là pour ça.
Je vais vous raconter une anecdote sur le Tour de France 83. C'est le Tour de France auquel Bernard Hinault n'a pas pu participer puisqu'il s'était blessé sur le Tour d'Espagne. Et j'avais deux jeunes loups dans l'équipe, et pas des moindres. Un qui s'appelait Marc Madiot et l'autre qui s'appelait Laurent Fignon. Et j'ai toujours annoncé que le leader était Marc Madiot, alors que dans ma tête c'était Laurent Fignon. Et on est allé jusqu'aux Pyrénées en annonçant toujours que c'était Marc Madiot.
Et pourquoi faire ça, Cyril, en fait?
Bien parce que comme nous n'avons plus Bernard Hinault, il fallait brouiller les pistes. Et donc on a fait comme si c'était
par rapport aux adversaires.
Aux adversaires. C'est-à-dire, n'oubliez pas que Fignon était dans son premier Tour de France, qu'il n'avait pas 23 ans. Et oui, qui n'avait pas 23 ans, qui n'avait jamais participé à un grand tour et qu'il était à sa deuxième année de professionnel. Donc, il fallait que je le protège sur le plan de la pression. Je savais qu'il avait plus de capacité que Marc Madiot à remporter le tour. Ceci dit, Laurent Fignon l'a effectivement remporté, et Marc Madiot, en devenant l'équipier de Laurent Fignon, a terminé septième. Mais vous savez que pendant toute la première partie du Tour de France, Fignon m'en voulait d'avoir mis Marc Madiot au leader. Mais moi, je savais ce que je faisais. Donc, vous voyez, il faut bien déterminer les choses.
Il n'y avait pas de
concertation. Et non, non, là, il n'y avait pas de concertation. C'est moi qui avais décidé. J'avais les cartes pour. Mais il y a un moment, un patron, c'est un patron, c'est lui qui décide.
Oui, oui, non, mais Cyril,
il y a des équipes où c'est les coureurs qui commandent. Ça ne marche pas très bien. Hein.
Non, Cyril, ce n'est pas ce que je te demandais. Pour brouiller les cartes, tu avais annoncé le contraire de ce que tu pensais. Mais est-ce que tu l'avais dit aux deux hommes?
Ah non, surtout pas,
Absolument pas.
Non, il fallait pas que je le dise à Fignon, surtout.
Oui, voilà, donc
je comprends
que le père Fignon, il devait être en colère.
Et donc ça s'est déterminé sur une étape difficile où Marc Madiot a un peu reculé.
À la pédale.
Très bien. Bon, ben écoute, c'est une solution.
C'est le tour où s'est retrouvé maillot jaune à la sortie des
Pyrénées,
Pascal Simon, et qui a été obligé d'abandonner. Ah oui, c'est vrai, on l'a pas trop cité. Si on a cité
Pascal,
on a cité Bernard Hinault et Louis Ocagna, mais il y avait aussi Pascal Simon
avec
le maillot jaune qui a abandonné, et on s'est retrouvé effectivement nous en position de prendre le maillot jaune et puis ensuite de le défendre et puis de le ramener à Paris.
Messieurs, si les auditeurs vous souhaitez réagir, 32-16 pour parler du cas de Romain Bardet, premier français du classement général. Donc le 32-16, appelez-nous, vous avez aussi le hashtag RMC Live. Cyril, Luc, Thierry, restez avec moi évidemment. Dans quelques instants, on va retourner du côté de Besançon. On sera avec Frédéric Grapp, entraîneur de Thibaut Pinot.
RMC Intégral Tour. Martial Fernandez.
L'intégral tour jusqu'à 20h, comme tous les jours, cet été, avec notre Dream Team RMC Sport, Luc Leblanc, Cyril Guimard, Thierry Bourguignon. Ils sont là, tous les trois. Même si c'est une journée de repos après 10 étapes de ce Tour de France 2014, les coureurs sont à Besançon, 179 coureurs, puisque Fabian Cancellara n'est plus là. Il est rentré à la maison pour préparer tranquillement les championnats du monde en Espagne, et on va accueillir avec nous Frédéric Grapp, entraîneur du côté de la FDJ, entraîneur aussi plus particulièrement de Thibaut Pinot. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir.
Frédéric, Thibaut Pinot qui est bien placé, classement général, sixième pour l'instant, qui s'en est très bien sorti hier en terminant deuxième de l'étape à 15 secondes seulement de Vincenzo Nibali. Vous qui le connaissez bien, Frédéric, est-ce qu'il vous a surpris hier, Thibaut?
Surpris, non, pas vraiment, parce que bon, c'était quand même une étape qu'il attendait beaucoup, sur un parcours qu'il connaît parfaitement, et après une préparation qu'il avait plutôt ronde, je pense que bon, c'était quelque chose d'attendu. Donc on est agréablement surpris, c'est sûr, mais pas non plus surpris de le voir à ce niveau-là.
Vous qui êtes un scientifique, spécialiste de la biomécanique aussi, Frédéric Grapp, est-ce que vous pensez que Thibaut, en ce moment, a les capacités de s'accrocher sur ses montées à Vincenzo Nibali, notamment dans les Alpes?
Bah écoutez, sur ce qu'on voit sur ce début de tour, et bon, comme connaissant bien Thibaut, bon, déjà hier il a gravi la pente en roulant 35 secondes plus vite que ce qu'il avait fait il y a deux ans, sur une étape plus difficile, après une dizaine de jours de Tour de France extrêmement difficile, donc avec de la fatigue. Si vous prenez tout ça mis bout à bout, ça veut quand même dire qu'à un moment donné il est relativement performant. Et le connaissant bien, je pense qu'il sera encore plus performant sur des cols à haute altitude et sur des montées très très longues. Donc moi j'aurais plutôt pensé qu'il serait un peu plus lié sur des efforts un peu explosifs de ce type là mais c'est de bonne augure de voir que finalement il a plutôt rehaussé son niveau sur ce genre d'arrivée avec fort pourcentage, relativement courte et quelque chose.
On a Cyril Guimard, Thierry Bourguignon, Luc, peut-être une question à Frédéric sur ces chiffres.
Bonjour Fred.
Salut Fred. Bonjour tout le monde.
Bonjour. Ouais, mais non, le tour se présente bien pour Thibaut. Est-ce que tu penses que Thibaut peut viser le podium sans aller trop vite non plus, hein, parce que bon, il y a Valverde, il y a Richie Porte qui sont deuxième et troisième au classement général, mais l'avenir s'annonce plutôt bien pour Thibaut, mais ceci dit, s'il veut monter sur le podium peut-être sur à Paris, il va falloir peut-être qu'il prenne un maximum de matelas par rapport à Richie Porte et puis à Valverde au classement général.
Sur ce que l'on voit actuellement, enfin, je pense de mon point de vue, bon, c'est que Nibali évidemment fortement installé sur la première place et avec l'expérience qu'il a, on aura un petit peu de mal à les déloger. En revanche, effectivement, je pense que le podium est très très ouvert, très très ouvert. Selon moi, il sera même un certain nombre à pouvoir y accéder. Et si on prend Valverde, Porte, Bardet, Pinot, il y en a oublié encore un ou deux, Perrault, etc., je pense qu'ils sont quand même, ça sera assez serré entre eux. Il n'y a pas des grosses différences. On sait aujourd'hui pertinemment que quand des montées de col se font, qui se montent à un certain rythme, on va plus voir un coureur partir devant tout seul, prendre 10 minutes aux autres. Donc je pense que c'est plutôt dans la gestion que ça va se faire, il va falloir compter ses coups de pédale, ça va être dans l'économie. Sur des moments de course, sur des faits de course à un moment donné peut-être, où certains vont un peu plus faiblir, sur des jours un petit peu moins faciles, où il faudra peut-être appuyer un peu plus fort sur les pédales. Mais voilà, je pense qu'il faudra être fort sur des moments clés pour essayer de distancer certains, sachant que bon, ils sont quand même, à mon avis, à mon sens, assez proches les uns des autres même.
Oui, Fred, j'ai bien écouté l'analyse de la montée, qui me paraît quand même quelque chose de très important dans la progression du potentiel et du niveau de performance de Thibaut. Est-ce que l'ensemble de ces chiffres peuvent être des éléments pour le mettre en confiance dans tous les domaines de la course et lui faire prendre conscience que il a peut-être une véritable carte à jouer dans un tour où on a perdu quand même les deux gros favoris, il faut quand même le rappeler, et que tout est ouvert, que ce soit Richie Porte, Valverde, que ce soit Van Garderen, voire derrière Rui Costa ou Mollema.
Ouais.
Effectivement, ils sont très proches les uns des autres, et est-ce que ça va pas se jouer justement au niveau de la capacité à se surpasser sur le plan de la motivation et donc à prendre à certains moments, à prendre quelques risques pour bouger. Alors, je le disais tout à l'heure avant que tu ne sois à l'antenne, déjà suivre Nibali le plus longtemps possible et ensuite voir ce que l'on peut faire en fonction des coureurs qui resteront. Mais est-ce que ces éléments que vous avez objectivés sur la montée d'hier sont de nature effectivement à lui apporter une surconfiance?
Ce qui est sûr aujourd'hui et ce qui est manifeste, c'est que bon, Thibaut arrive sur le Tour de France avec une relative fraîcheur qu'il n'avait pas toujours eue. Le Tour de Suisse, il a été un peu malade et qu'on l'ait mis un peu au repos, qu'il soit un peu moins entraîné. Et je pense que Cyril, c'est très bien. T'arrives sur le Tour de France, un petit peu de fatigue, ça devient très vite compliqué. J'ai toujours l'habitude de dire, moi, pour être capable de rêver ce genre de course un petit peu désentraîné, hein, je pèse mes mots, je dis bien désentraîné, entre guillemets,
parce que... Oui, mais c'est des pourcentages, hein, des faibles.
Oui, en restimulant un petit peu derrière, ça regrimpe très très vite avec la fraîcheur. Donc bon, aujourd'hui, les dispositions sont bonnes, la motivation, elle est là. Bon, tu sais comment, qu'est-ce qui manque après pour se lancer dans les aventures, il faut avoir de la confiance, et tu peux pas faire n'importe quoi, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, tu lances dans les aventures. C'est pour un retour de boomerang,
il y a un seul coup de boomerang. Fred, on sait très bien que quand tu joues le podium, ou t'es loin et tu fais des coups à la Pierre Roland, ou t'es dans la position où il est, et c'est quand même dans les dernières ascensions et à la pédale que les écarts vont se faire. Mais pas dans des raids à 160 bornes de l'arrivée.
Oui, mais messieurs. Messieurs, c'est pas simplement sur le chrono, surtout, que ça va se faire le podium.
Parce que effectivement, il y a 50 km qui est pas facile hein, le samedi. On connaît le potentiel des uns et des autres au niveau de ce genre de contre-la-montre en troisième semaine de course.
Il a progressé, Thibaut, dans ce domaine-là aussi ou pas?
Ah oui, il a extrêmement progressé. Ouais, depuis cette année, il a pas stagné. On le voit dans les chiffres, on le voit sur les performances. On sait que sur les grands tours, le tour d'une semaine, il a montré, il avait aussi son niveau, mais aussi bien sur le plat, où il avait du mal à rouler contre la résistance de l'air. Et si vous avez un peu plus vallonné, ça va un petit peu davantage, je dirais, l'avantager. Donc bon, en sachant que des gens comme Porte, comme supérieur, des gens comme Perrault ont également un avantage, À Valverde, j'en suis pas sûr. Bon, il y en a quand même deux, trois qui ont une petite pointure d'avance. La raison pour laquelle, effectivement, il faudra aller chercher du temps dans la montagne, c'est sûr.
Frédéric Grappe, vous parliez des chiffres de la montée de la planche des belles filles tout à l'heure. Je sais pas si vous avez tous les chiffres en tête, mais est-ce que ça veut dire que Nibali est monté moins vite que Christopher Froome il y a deux ans?
Oui, Nibali est monté 30 secondes moins vite que Froome il y a deux ans.
30 secondes.
30 secondes de moins. Et puis Thibaut est monté 35 secondes plus vite que lui son propre temps.
Oui.
Moi, ce que je pense hier, si on mettait hier dans les dispositions d'Anibali bien calé devant dans les équipiers en faisant un petit peu moins de remontée, descente et d'accélération dans le paquet entre guillemets, on perd quand même de l'énergie. Mais 15 secondes dans la montée d'hier, je pense qu'elles sont très faibles et c'est quasiment d'un niveau très très proche. Voilà. Maintenant, c'est la course. Hein. Il y a le placement qui compte. Il y a encore du mal un petit peu à se placer dans le peloton, là c'est tout. On progresse par rapport à ça. Il y a encore un gros boulot qui est fait par ses équipiers, qui le remonte, qui le replace, mais tout ça est coûteux en énergie quand même. Et bon, je sais que je parlais des spécialistes, hein, comme Cyril, comme Luc Leblanc, etc. Ils savent très très bien qu'à un moment donné, ces montées et descentes dans le peloton sont coûteuses, et ça, vous le payez.
Surtout sur une étape de montagne, oui.
Bien sûr, c'est évident. Donc les 15 secondes d'hier, pour moi, bon, elles sont importantes, mais en même temps, elles sont minimes. Parce que si Thibaut arrive à un moment donné à rouler, ce qu'on appelle en lissant tout ça, en étant beaucoup plus linéaire dans ses étapes, ce gain d'énergie, ces 15 secondes, n'auront peut-être plus lieu. Il sera très très proche de gens comme Nibali. D'ailleurs, bon du travail.
On va vous remercier, Frédéric Grappe, entraîneur de la FDJ, entraîneur de Thibaut Pinot. Merci d'avoir été.
Je suis pas le seul à entraîner, on est plusieurs.
Non, c'est pour un des entraîneurs.
Je gère la performance globale de l'équipe, donc bon, on est plusieurs. Voilà.
Merci Frédéric. Cyril, Luc et Thierry, et c'est l'heure des paris 19h52.
Les paris RMC, Tour de France.
Avec Benjamin Ramager. Salut Benji.
Salut Martial, salut à tous.
Salut mon Benji. Comment il va le Benji?
Il va très bien, il s'est reposé.
Aujourd'hui, personne n'a gagné, personne n'a perdu. C'est ça qui est bien.
C'est bien.
On était tous de repos.
Voilà. C'est ça.
Est-ce que c'est l'autre show qui s'est le plus reposé? Est-ce qu'on avait fait des paris? Tu t'es levé le plus tôt l'autre show?
Bah écoute, hier, oui. Après la planche des Belleville, je me suis tapé 250 bornes.
Oh.
Pour aller rejoindre un partenaire du tour, j'ai fait 50 bornes.
Tu nous as dit 200 hier soir.
Non, il y avait 250 bornes.
Il a recompté.
Au GPS et j'ai fait 50 km de vélo ce matin. Je me suis dépêché de me rhabiller, de prendre la douche et tout, de déjeuner un coup avec eux. Et je me suis retapé 120 bornes pour venir voir la tronche de Cyril et de Fred Adam pour faire des directs cet après-midi. Voilà, donc voilà. Et
ça t'a réconforté.
Et je finis à 20h30.
C'est fini la journée de Luc Leblanc. Ouais, Luc Leblanc, il est avec
nous.
C'est
pas une journée. 32-16, c'est pire la journée de repos. C'est pire la journée de repos que les autres jours.
Et appelez-nous au 32-16, Luc Leblanc, Thierry Bourguignon, encore avec nous de 20h à 20h30. Benji.
Alors, le grand favori pour l'étape Besançon-Oyonnax, la 11e étape du Tour de France, évidemment, c'est Peter
Thierry
Sagan.
Bourguignon.
C'est Peter Sagan. 3,30 la victoire de Peter Sagan. Donc après, les cotes sont intéressantes puisqu'on passe à Simon Guérin 8, Sylvain Chavanel 12, Michael Albazini 18, avec Thierry Bourguignon qui, on le rappelle, est toujours largement maillot jaune et maillot vert.
Largement, il faut pas exagérer.
Il a assommé le tour.
Il a un petit peu assommé le tour.
Benji, arrête de l'énerver. Tu sais bien que... Il vient juste de se réveiller, contrairement à ce qu'il a dit. Et là, tu le fous en colère.
On va le rattraper, Lucho. On l'a laissé en tête. On va le rattraper. Moi, je tente une énorme cote. Je tente un coureur qui a été souvent à l'avant ces derniers temps. C'est Luis André Maté. La cote est à 200.
Peut-être que tu veux gagner.
Il a besoin
tour,
d'argent.
Là,
t'as vraiment envie de nous mettre. Voilà, c'est ça. J'ai envie de prendre mes distances.
Bon, mais si tu nous mets une tête comme ça, impressionnant.
Okay, dis-moi, Benji.
Oui.
Il a combien Sylvain Chavanel?
Chavanel, il est à 12.
Ah, il est pas, c'est pas énorme. Hein.
Non, c'est mais tu, énorme. Si c'est Chavanel qui gagne et que Bourguignon ne joue pas Chavanel, tu prends le maillot jaune.
Bon, ben je joue Chavanel.
Et là, Bourgui va jouer Chavanel.
Je joue en dernier.
Ah, il fait du marquage à la culotte.
Ouais, je joue en dernier. C'est tactique cette année.
Ouais, mais tu sais, ça pourrait être Smuculis, par exemple, qui gagne. Attends, il est à combien, Smuculis?
Non, mais si Benji,
avec moi chez Lotus, Smuculis. Gatis Smuculis.
Il était déjà avec toi?
Ouais, il était avec moi dans l'équipe amateur, là.
Bon, je veux dire, c'est vieillard, il se déplace en déambulateur ou quoi?
Il est à 150 pour le coup.
Ah, un peu moins que toi, alors. 200, toi t'as joué 200.
Tu veux jouer Smuculi, c'est ça?
Non, tu. Non, s'il gagne, je vais me. je vais me mordre les doigts. Moi je vais aller. Vous savez, il y a une équipe qui a été terriblement blessée.
Ah, j'allais voilà. le dire. Les petits hommes en vert. Non?
Non, pas du tout.
Thierry.
Oh, tu causes trop vite. Non, il y a une équipe là qui est complètement.
Yam.
Qui est complètement démotivé, qui est complètement, complètement à la rue, et qui va tenter demain tout pour aller chercher la gagne de l'étape. Donc je mettrai Nicolas Roche.
L'équipe Tinkoff, donc l'équipe d'Alberto Contador.
30, la cote de Nicolas Roche.
Voilà, je prends des risques.
Ah, c'est des risques bien calculés, Cyril. T'as été directeur sportif et manager d'équipe à l'époque, non?
Quand j'étais jeune, mais tu sais que maintenant je suis has-been.
Bon alors Thierry,
il a tort, réfléchi, calcule.
Ouais.
C'est pas bête mon affaire. Tiens, écoute.
Non, c'est pas bête. Non, c'est loin d'être bête. Parce qu'avec tout ce qu'on a entendu sur le directeur sportif.
Il y a deux ans, qui a été le recordman des kilomètres d'échappée sur le Tour, un ancien pistard qui est de la même équipe qui pourra. Tu vois, je te donne des pistes.
Non.
Un Danois,
non. Morkov.
Ouais, mais tu sais.
Quel Morkov?
Michael.
Ouais, je ne suis pas persuadé que l'équipe verte, les petits hommes verts, ils sont fâchés là. Là, ils sont atteints dans leur orgueil.
Ouais, mais même l'équipe YAM, je veux dire.
Et.
Ils sont pas super depuis le début du tour quand même. Hein.
Ouais. Bon, il faut se décider, Thierry. Bon, parce
alors, sinon, il y a un contre demain matin.
Pierre Roland.
Pierre Roland.
Ben ouais.
Et tu vois bien arriver au sprint parce que là, tu sais, même s'il y a un groupe d'échappés devant, ça va basculer à peut-être 7-8.
Il a combien, Pierre-Roland Benji?
Il est à 60. Donc
ouais, redeviens un maillot jaune du tour.
Et
Vauclair, là, il va pas remettre en route, là.
Je te dis, il va y avoir un duel demain, c'est Vauclair, Chavanel, tu vas voir.
Vauclair Chavanel, annoncé par
les anciens de Vendée.
Ça va être un duel. Ça va être un duel entre les deux parce que les deux vont vouloir gagner demain.
Un récapitule vite.
On délire complètement.
Allez, on récapitule. Lucho, Sylvain Chavanel, cote de 12. Pierre Roland pour Bourgui, cote de 60. Nicolas Roche pour Cyril, cote de 30. Louis Andrel Maté pour moi, cote de 200. Et comme Gilbert Bribois n'est pas là, on a besoin de ton prono, Martial.
Oh là là, le piège.
Et voilà.
Je vais jouer Paulinho, Tinkoff aussi.
Paulinho, la cote est à 50. Donc,
bon, mais au revoir. Hein.
Peut-être que Marcel.
C'est ça mon seul prono du tour.
Là où il est fort, c'est qu'il va donner un prono. Paulinho va gagner. Il aura gagné le maillot jaune en une étape. Ça sera très fort.
Eh ben ouais.
Ça peut arriver.
Et il faut savoir que quand même, que depuis le début de l'après-midi, il ne pense qu'à ça. Ouais. D'ailleurs, à un moment. Je me suis demandé s'il parlait pas d'Armstrong, parce qu'il fait lance. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient foutre, Armstrong, dans la... Ah non, c'était lance en deuxième division.
Exactement.
Ouais, et en plus, tu t'es trompé, là.
Oui,
et franchement, j'étais en voiture.
Ouais, j'ai vite rectifié. Lance interdit de monter en Ligue 1. C'est l'info. On en reparlera à partir de 20h30 et dans l'after à 20h. Merci, Benji, pour les paris.
Salut,
PMU. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Allez, action.
Ouais, je suis un peu marqué.
19h58, merci à Cyril Guimard. Il va pouvoir profiter de sa soirée. Et on le retrouve demain.
Il va se coucher. Alors,
Thierry et Luc, vous restez avec nous. L'intégrale tour continue. 20h, 20h30. Toutes vos questions au 32-16. Puis le hashtag RMC Live. Et puis aussi, évidemment, à partir de 20h30, c'est actualité lensoise avec le club de Lens. Interdit de monter en Ligue 1 par l'organisme de gestion de la Ligue.